Changement de voix, ça ne vous échappera pas. Pendant ces vacances de Noël, j'ai le plaisir de me glisser dans les chaussons de Mathieu Vidard, parti se reposer quelques jours. Mais le principe de la Terre au carré reste le même. Découvrir, peut-être se découvrir, se divertir, s'informer, rêver, voyager, mieux appréhender notre environnement. Vaste challenge qui débute ce lundi avec un anniversaire. La première bougie de l'affaire du siècle. Il y a un an, quatre ONG environnementales décident de poursuivre devant la justice l'État français pour inaction climatique. Où en est-on ? Un an et 2,3 millions de signataires de cette pétition plus tard. Le directeur général de Greenpeace, Jean-François Julliard, il est déjà là. Et l'eurodéputée Marie Toussaint répondront à toutes vos questions au 01 45 24 7000. Vous pouvez d'ores et déjà appeler sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Dans la deuxième demi-heure de cette émission, vos solutions pour la planète, on ira cueillir des plantes sauvages en pleine montagne avec une spécialiste, Claire Moucaud. Pour l'accompagner, j'ai mis une serre pour chacun de vous dans mon sac à dos. Mais attention, serpe à manier avec précaution, et pour vous et pour les plantes. L'invité découverte, en fin d'émission, nous plongera dans les abysses des océans, à quelques milliers de mètres en dessous du niveau de la mer, là où il fait nuit noire, où toutes les espèces ont inventé des systèmes pour pouvoir s'éclairer. Catherine Vadon est docteure en océanographie. Elle vient de publier un très beau livre, Océan Sauvage. Cette émission est réalisée par Céline Hilla, avec à la technique aujourd'hui Charles Leca et Pierre Faucillon. Bienvenue.
Élodie Font. La Terre au carré. Sur France Inter.
Bonjour Jean-François Julliard.
Bonjour.
Vous êtes le directeur général de Greenpeace France, une des associations avec Oxfam, la Fondation Hulot et Notre Affaire à tous, à avoir lancé cette procédure judiciaire contre l'administration française pour l'obliger à respecter tous ses engagements en faveur du climat. Et puis nous sommes en ligne avec Marie Toussaint. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes juriste, à l'origine de la pétition L'Affaire du siècle, lancée il y a un an presque jour pour jour, et aussi depuis 6 mois, députée Europe Écologie Les Verts au Parlement européen.
Cette obligation est fondée sur les articles 2 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Ces articles impliquent une obligation positive pour l'État néerlandais de prendre des mesures raisonnables et appropriées pour protéger les résidents des Pays-Bas contre le risque sérieux d'un changement climatique qui menacerait la vie et le bien-être de nombreuses personnes aux Pays-Bas.
That would threaten the lives and well-being of many people in the Netherlands.
Le juge Strefkerk, président de la Cour suprême néerlandaise, qui a condamné, c'est une première, vendredi dernier, l'État néerlandais à réduire les émissions de gaz à effet de serre du pays de 25% par rapport à 1990. L'État attaqué en 2013 par une association, déjà condamnée en 2015, puis en 2018 par la Cour d'appel de la Haye, et enfin donc par la Cour suprême. 6 ans de procédure, si je compte bien, Jean-François Julliard, encore 5 ans avant que la France soit condamnée pour de bon.
Bah ça peut être ça, ça peut aller plus vite aussi. Hein. On n'est pas obligé d'avoir exactement le même rythme que cette affaire aux Pays-Bas. Mais c'est certain que cette affaire-là, même si elle a pris du temps, parce que c'est vrai que ça a pris 6 ans entre les différentes étapes et les différentes juridictions, au final, c'est une immense victoire et c'est une première absolument inédite de voir un gouvernement, le gouvernement des Pays-Bas en l'occurrence, l'État néerlandais condamné parce qu'il n'en fait pas assez pour lutter contre le dérèglement climatique, condamné devant les tribunaux. C'est quelque chose d'inédit qu'on n'avait jamais auquel on n'avait jamais assisté en Europe. Et je trouve que c'est de bon augure, bien sûr, pour l'affaire du siècle et ce recours juridique qu'on a intenté contre l'État français. Mais surtout, c'est de bon augure sur la prise de conscience sur l'urgence climatique, l'urgence à agir, qui commence à se déployer un peu partout, dans toutes les couches de la société, et y compris dans les tribunaux. Donc ça, c'est plutôt très encourageant.
Et un peu partout dans le monde, d'ailleurs, puisque un peu partout, des citoyens, des ONG attaquent leurs États pour inaction climatique en Colombie, au Pakistan, aux États-Unis. Marie Toussaint, qu'est-ce qu'une telle décision peut avoir comme portée en France ?
Mais c'est une décision historique, c'est une sorte de révolution à la fois juridique et philosophique, parce que la Cour établit qu'il y a un lien entre le réchauffement climatique et les droits humains, et donc que les États doivent tout faire pour protéger les droits des citoyens. Et donc, par ricochet, évidemment, ça va avoir une influence sur la France, mais aussi potentiellement sur tous les pays du monde, En tout cas, pour tous les signataires de la Convention européenne des droits de l'homme dont on entendait parler dans l'extrait que vous avez passé, et donc aussi dont les membres de l'Union européenne. Donc ce que ça dit, ce jugement, c'est qu'il y a une obligation d'agir pour les États, et non seulement d'agir, pas d'agir un peu, mais d'agir beaucoup, d'agir au mieux pour protéger les droits des citoyennes et des citoyens. Et la Cour parle explicitement de l'objectif de 1,5 degré Celsius et donc de l'objectif de l'accord de Paris. On sait aujourd'hui que les États en sont loin. Et donc, ce que dit cette Cour, qui va avoir normalement des échos dans toute la jurisprudence, en tout cas européenne, c'est qu'il doit y avoir une action résolue de la part des États. Et si on fait un pas de côté, eh ben on peut imaginer aussi que cette action résolue de la part des États, elle doit concerner aussi les entreprises, et pas seulement les citoyennes et les citoyens dans leur action quotidienne, mais l'ensemble des cadres, des acteurs collectifs qui font avancer, évoluer nos sociétés.
Ça veut dire que vous qui connaissez bien l'Europe, est-ce que finalement on n'aurait pas dû intenter un recours en justice au niveau européen, si on est plusieurs comme ça, pays européens ?
Alors il y a des tentatives, hein. Il y a une affaire qui est en cours. Vous savez, en matière de climat et d'environnement en règle générale, l'accès à la justice des citoyennes et des citoyens est extrêmement limité. Donc quand je dis la Cour reconnaît qu'il y a une violation des droits des citoyens, normalement, quand nos droits sont bafoués, quand nos droits sont violés en tant que citoyennes et citoyens, on doit pouvoir faire appel à la justice. Mais aujourd'hui, en matière environnementale, c'est extrêmement restreint. Et donc cette action en cours vis-à-vis de l'Union européenne, pour lui demander d'adopter un objectif de 65% de réduction d'émissions à horizon 2030, eh bien cette action aujourd'hui elle est empêchée, entravée, parce que la Cour considère que on ne peut pas avoir accès à la justice. Alors là on attend, on est dans le cadre d'un appel justement pour valider cet accès à la justice des citoyens. C'est un procès qui s'appelle le People's Climate Case. Mais en tout cas on devrait pouvoir agir. Mais moi ce sur quoi je veux insister, c'est qu'aujourd'hui, que ce soit la France ou l'Union européenne, ont des objectifs de protection du climat qui sont aussi trop faibles. À horizon 2030, notamment, on est très en deçà de ce qu'il faudrait faire pour agir. Et donc, cette décision de la Cour de la Haye doit créer un sursaut pour les dirigeantes et les dirigeants de l'ensemble de l'Union européenne et des États membres de l'Union européenne pour accroître encore leurs ambitions. Et c'est pas parce que le reste du monde traîne les pieds que nous, on doit traîner les pieds également. Au contraire, il faut agir et c'est une obligation constitutionnelle.
Oui, l'idée, c'est pas de répondre seulement aux objectifs, c'est peut-être de s'en donner des plus ambitieux, en fait, Jean-François Julliard.
Oui, absolument. C'est vrai que, comme ça vient d'être dit, à la fois, les objectifs que se fixent la plupart des États européens ne sont pas suffisamment ambitieux face à l'urgence climatique. Ce n'est pas nous qui le disons, ce sont les scientifiques du climat, c'est les Nations Unies qui rappellent que les États n'ont pas une ambition suffisamment forte. Et même ces objectifs, les objectifs actuels qui ne sont pas à la hauteur de l'urgence, ne sont pas atteints. Je rappelle que le gouvernement français, et c'est ce qui nous a décidé à nous lancer dans ce recours juridique, c'est que l'État français n'est pas en mesure aujourd'hui d'atteindre les objectifs qu'il s'est lui-même fixés en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc non seulement ces objectifs ne sont déjà pas suffisants, mais en plus l'État français ne se donne pas les moyens aujourd'hui de les atteindre. Donc c'est ce qui a justifié effectivement ce recours juridique.
Mais est-ce qu'on n'attend pas trop de l'État ?
Non, parce que l'État a une responsabilité singulière et en tout point particulière. Il y a eu une étude qui a été faite récemment qui montrait que dans l'ensemble des actions qu'on devait mener en France pour atteindre, respecter l'accord de Paris et ne pas dépasser 1,5 ou 2 degrés, l'ensemble des actions individuelles, parce que souvent c'est vrai qu'on oppose des actions individuelles aux actions de l'État, l'ensemble des actions individuelles représenterait au mieux 25% de l'effort à fournir. C'est-à-dire que même si on était tous parfaits, parfaitement vertueux dans notre vie quotidienne, cela ne représenterait que 25% de l'effort à accomplir. Les 75% restants sont entre les mains des entreprises et de l'État. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'État qui peut permettre, y compris aux citoyens, d'aller plus loin dans leur engagement écologique. C'est l'État qui peut faire en sorte qu'il y ait des infrastructures différentes pour accorder plus de place au vélo, au mode de transport collectif par exemple. C'est l'État qui peut soutenir une agriculture écologique qui est plus propice pour l'environnement et moins néfaste pour le climat. C'est l'État qui peut donner le coup de boost qu'on attend depuis des années sur le développement des énergies renouvelables. C'est l'État qui a entre les mains l'essentiel de ces actions à mener. C'est l'État qui peut mettre fin du jour au lendemain quasiment à toutes les niches fiscales qui sont préjudiciables là aussi au climat, parce qu'il faut rappeler que à travers ces niches fiscales, c'est 11 milliards d'euros chaque année de subventions directes ou indirectes aux énergies fossiles qui sont responsables de cette crise climatique. Donc l'État a une palette d'action qui est sans commune mesure avec tout ce que nous, citoyennes et citoyens, on peut faire.
Marie Toussaint, vous êtes d'accord avec ça? L'État a plus de pouvoir pour changer les choses que les entreprises, que les citoyens?
Bien sûr, non, bien sûr que je suis d'accord. Mais je veux rajouter deux points à ce que vient de dire Monsieur Julliard. D'abord, une question de justice sociale et de ce qu'on appelle la justice climatique. Ce qu'on a vu en France avec les Gilets jaunes, ce qu'on a aussi vu au Chili avec les étudiants qui se sont rebellés contre la hausse du transport en commun, et ce qu'on voit dans de plus en plus nombreux de pays du monde, c'est des gens qui disent on en a assez d'être parmi les plus pauvres, d'être parmi les moins pollueurs, et c'est notamment vrai au niveau nord-sud, hein, mais en plus de ça, d'avoir à payer de manière disproportionnée le coût de la lutte pour la transition, le coût de la lutte contre le réchauffement climatique. Mmh. Et c'est d'autant plus frappant et d'autant plus injuste que des grandes firmes extrêmement pollueuses, et je pense notamment aux 25 firmes qui ont émis 51% des émissions de gaz à effet de serre sur les 25 dernières années, depuis 1988, eh bien, ces firmes-là, quant à elles, sont largement exonérées de taxes. Et donc, on a besoin d'une justice sociale. En fait, la justice climatique et la justice sociale
sont liées.
Finalement, c'est le même sujet.
Évidemment. On va, de toute façon, continuer à parler de ce sujet avec vous, Marie Toussaint, et puis avec vous, Jean-François Julliard. Toutes vos questions au 01 45 24 7000 sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. On va écouter ensemble, tous les trois, si vous le voulez bien, une rediffusion d'une des chroniques de Camille Cronier. Camille passe au vert. C'était le 15 octobre dernier avec Mathieu Vidard.
France Inter. La Terre au carré.
Camille Cronier, on voyage avec vous aujourd'hui avec cette équation pas toujours facile à résoudre. L'écologie est-elle compatible avec le tourisme de luxe?
Oui, je suis allée au salon des grands voyages. Soleil, neige, croisière, dit. Regardez Mathieu,
oui,
l'affiche bleu turquoise paradisiaque, ça donne envie. Hein.
Oui.
Ici, c'est du haut de gamme et on va partout.
Alors, je vous fais voyager vers le Canada.
En Écosse.
Au Botswana.
En Afrique australe.
L'Est du Japon.
En Ouzbékistan.
Vietnam.
Aux îles Féroé, en Islande et au Groenland, le tout sur un avion privé.
Corée du Sud.
Nous allons dans les îles Vierges britanniques, dans les Caraïbes.
Tahiti, Australie, Nouvelle-Calédonie, Nouvelle-Zélande, le Chili et également l'Ouest américain.
Eh ben dis donc, tu fais le tour du monde en deux secondes.
Voilà.
Et vive le bilan carbone. Mais le tour n'est pas tout à fait complet. Que vois-je sur ce stand? Une petite peluche toute douce.
Et alors là, nous avons un ours blanc.
Et oui, il y a aussi les pôles nord et sud.
On vend les croisières qui montent sur l'Arctique ou qui descendent en Antarctique. Alors évidemment, il n'y a pas d'ours blanc en Antarctique. Là, on a plutôt des manchots.
Et les croisières polaires sont prises d'assaut. 4 fois plus de bateaux en 10 ans, malgré le budget. Hein, 5 000 euros minimum la semaine au nord et 15 000, je vous ai pris la brochure, Mathieu.
Merci.
Pour 2 semaines de voyage au pôle sud, il y a 1 an d'attente.
Les gens, à l'heure actuelle, sont passionnés par cette urgence de découvrir cette faune sauvage, ces paysages qui sont quand même les dernières terres vierges.
Une urgence, parce qu'elles vont tous disparaître.
Ah bah c'est ce que pensent un certain nombre de personnes.
Du coup, il y a quelque chose de paradoxal, c'est-à-dire qu'ils vont voir quelque chose qui va disparaître à cause notamment du fait qu'ils y vont.
Mais ça c'est la nature humaine, ça j'y peux absolument rien, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est vrai que c'est curieux.
Et vous y contribuez en vendant ces croisières du coup quelque part?
Oui, ben si vous voulez, j'y contribue, oui, pourquoi pas.
Et puis, elle l'assure, la dame, le tourisme ne perturbe pas la vie sauvage.
C'est pas du tout abîmer ces endroits que d'aller voir les animaux qui vivent là-bas. Au contraire, les gens qui partent là-bas en reviennent revigorés. Ils savent qu'il faut se battre pour que cette nature existe encore. Et c'est en voyant ces choses magnifiques qu'on comprend qu'il faut lutter pour qu'elles existent demain et après-demain.
Voilà, donc vous avez suivi, il faut aller voir ce qu'on contribue à faire mourir pour ne plus le faire mourir après, ces concepts. Un tourisme tragique, selon Greenpeace, rendu possible en plus grâce à la fonte des glaces accélérée en Arctique et en Antarctique, autre compagnie de croisière polaire.
L'environnement pour vous c'est important?
C'est une priorité. On a des bateaux hybrides qui fonctionnent au fioul léger et à l'électrique. Et quand on va dans des destinations pour aller voir la faune et la flore, la première chose qu'on dit aux passagers, c'est que surtout il ne faut laisser aucune empreinte.
Mais est-ce que justement le meilleur moyen de laisser aucune empreinte, c'est juste tout simplement de ne pas y aller?
C'est tout le paradoxe du tourisme.
Ah, on y vient, la fameuse équation dont vous parliez, Mathieu. Mm-hmm. Alors, certains visiteurs admettent cette incompatibilité.
Je suis dans la contradiction, comme tout le monde.
On adore voyager. Je sais que c'est pas bien, mais bon, on fait quoi?
Et puis, il y a ceux comme ce couple qui, pardon, s'en tamponnent, mais alors complètement.
Bon, c'est sûr, il y a l'écologie, mais faut pas non plus nous prendre la tête avec ça. Les gens, ils sont tirés plus de chez eux, maintenant.
Tout le monde essaie de culpabiliser, tout le monde, avec ces histoires-là. Aujourd'hui, on essaie de foutre la trouille à tout le monde. Il faut manger bio, sinon tu vas mourir avec les pesticides. Il faut vraiment, bref, autant mourir tout de suite, quoi.
Restons sur une note positive. Continuez de voyager et ne culpabilisez pas pour ça.
Et c'est quoi, alors, le prochain voyage?
Bah, ce sera sûrement l'Australie. Alors là, je ne vous raconte pas l'effet carbone, il va y aller. Hein.
Et voilà, au moins c'est assumé. De toute façon, vous savez quoi?
La technologie va trouver les moyens pour rendre les avions un peu moins polluants.
Ah, voilà. Oui, voilà, comme ça on pourra continuer d'explorer le monde, la conscience tranquille. D'autant que les vrais pollueurs, eh bien, ce sont nous, les individus, pas les transports. C'est en tout cas ce que m'a assuré ce vendeur de croisières de luxe.
On montre du doigt les croisières parce que ce sont des mastodontes, parce que c'est des gros bateaux. Mais la personne qui va jeter du plastique avec sa bouteille de plastique, il est aussi pollueur qu'une compagnie maritime. Okay ? Imaginez-vous que vous aviez 1 million de personnes, et c'est le cas, qui ne font pas le tri. C'est aussi dangereux qu'un bateau de croisière. Il faut être réaliste.
Alors justement, pour être réaliste, je rappelle deux études. D'abord, celle du Conseil de l'Arctique, qui a établi que plus de 300 milliards de microplastiques flottent dans les eaux du Grand Nord. Et celle de l'ONG Transport Environment, cette fois au sujet des croisières en Europe. 200 paquebots rejettent 20 fois plus d'oxyde de soufre, l'un des principaux polluants de l'air, que toutes les voitures sur le continent.
Camille Passauvert à réécouter sur franceinter.fr. Vous voyagez encore, vous, Jean-François Julia?
Oui, parce que c'est important aussi, le voyage malgré tout, mais on peut voyager autrement, on peut prendre le train. Là, j'essaie de découvrir l'Europe en train. C'est parfois un long chemin, mais on apprend aussi à retrouver le temps du voyage, ce qu'on avait un peu perdu, parce qu'on voulait toujours aller plus vite et faire en sorte que le voyage, le temps de ce trajet, finalement, vers nos vacances, généralement, ou vers un déplacement, n'existe plus. On apprend à retrouver aussi ce temps du voyage.
Mais vous c'est allez important, relire Nicolas Bouvier, quoi.
On pourrait, oui, c'est vrai, c'est une bonne idée.
Jean-François Julliard de Greenpeace et Marie Toussaint, juriste et députée européenne, sont nos invités ce midi dans la Terre au Carré. Vos questions sur l'affaire du siècle, un an après le lancement de cette action en justice qui dénonce l'inaction climatique de l'administration française, au 01 45 24 7000 sur franceinter.fr, sur la page de la Terre au Carré et sur les réseaux sociaux. Le mot-clé, c'est l'attaque. And then there were two. We have to stop somewhere. How far to go? I don't care. Just when I thought you'd leave me blue, you come around. In the mirrors. Right now we have to start somewhere. How far to go? I don't care. Just when I thought you leave me so blue, you come around out of nowhere. 100 million people just to smother the mood. I had to plead to get them all out the room, but then there were two. De la soul sur France Inter, Then There Were Two, duo Mark Ronson et Anderson Paak, extrait de la BO du film Les Incognitos qui sort ce mercredi de Noël.
La Terre au Carré, le magazine de l'environnement. Élodie Font sur France Inter.
Et nous sommes ce midi en direct avec Jean-François Julliard, directeur général de Greenpeace France, et Marie Toussaint, juriste et députée européenne Europe Écologie Les Verts, pour parler avec eux de l'affaire du siècle, un an après le lancement de la pétition. Vos questions, vos réactions, 01 45 24 7000. Ça tombe bien, on est avec une première auditrice au téléphone, Chantal, qui nous appelle de Rouen. Bonjour Chantal.
Bonjour.
On écoute votre question.
Alors, ma question est simple. Si l'État a été condamné, qu'est-ce qui va payer cette amende? Ce sont encore les citoyens, alors qu'on croule déjà sous trop de taxes et d'impôts. Alors moi, je suis tout à fait d'accord qu'on sauve la planète, mais pas à n'importe quel prix en ce qui concerne les citoyens. On est déjà rackettés, je dirais. Donc si l'État est condamné, moi, ce que je propose, c'est qu'on oblige l'État à faire des choses concrètes et non pas que l'État nous retaxe à nouveau.
Jean-François voilà, Julliard vous écoute.
Oui, non, l'idée n'est pas de faire payer les citoyens à la fin, bien entendu. Déjà, les quatre organisations co-requérantes ont demandé 1 euro symbolique de réparation. Et l'idée, c'est que, donc on n'a pas demandé volontairement aussi pour ne pas faire supporter ce poids aux contribuables, mais l'idée est de surtout d'aboutir à une décision judiciaire qui enjoigne l'État à prendre des mesures pour lutter sérieusement contre le dérèglement climatique. C'est-à-dire que notre objectif n'est pas que l'État soit condamné financièrement parlant. Ça pourrait arriver si à la fin l'État était condamné et qu'il ne respecte pas la demande du juge administratif, qu'il y ait à la fin une sanction financière, mais ce n'est pas notre intention. L'intention, c'est que le juge dise l'État a une obligation d'agir pour protéger la population des conséquences du dérèglement climatique, et donc l'État a une obligation d'aller plus loin dans son action, d'avoir une ambition supplémentaire et de mettre en œuvre des politiques publiques qui fassent en sorte que enfin les émissions de gaz à effet de serre baissent comme l'État s'y est engagé. Voilà.
Marie Toussaint, une question sur l'application France Inter, question de Maryse. En juin dernier, des collectivités et des ONG, dont notre affaire à tous, ont donné 3 mois à Total pour prendre des mesures contre le changement climatique. Est-ce que vous avez lancé une procédure judiciaire depuis? Et sur quelle base juridique on peut agir contre une entreprise?
Écoutez, ça fait effectivement plusieurs mois que donc notre affaire à tous et 3 autres associations et 15 de collectivités discutent avec Total pour demander à cette firme qui est la plus grande pollueuse française, hein, et dans l'histoire et dans le moment actuel, la plus grande émettrice de gaz à effet de serre, de nous indiquer de quelle manière elle souhaite agir contre le réchauffement climatique, puisqu'elle en est donc l'une des plus grandes responsables. Et donc, ce que pour l'instant Total nous répond, c'est en termes d'affichage, nous sommes très écolos et nous faisons attention et nous allons aller vers des énergies plus propres, etc., etc. Et dans les faits, un accroissement de ses capacités de production. Et donc, il y a cette discussion-là qui est en cours de la part de collectivités qui, quant à elles, disent qu'elles souffrent du dérèglement climatique, qu'elles doivent adapter leur urbanisme, adapter les services de santé, etc., etc. Pour l'instant, il n'y a pas d'aboutissement, il n'y a pas de réponse concrète de la part de Total, en tout cas pas une réponse à la hauteur de ce qu'il faudrait mettre en œuvre. Et donc, la procédure est effectivement en cours, poursuit son cours. On verra vers quoi on va. Et l'outil juridique qu'on utilise, c'est la loi sur le devoir de vigilance qui a été adoptée il y a quelques années à peine et qui demande aux firmes de faire attention dans leurs activités au niveau mondial à leur impact à la fois sur les droits humains et sur l'environnement.
Nous sommes au téléphone avec François. Bonjour François.
Bonjour.
Vous nous appelez d'où ?
Je m'appelle de Lyon.
De Lyon. Votre question, nous vous écoutons.
Ma question est la suivante. L'affaire du siècle a été lancée en invoquant le climat 9 fois dans cette tribune. Et elle conclut qu'il faut sortir du charbon, elle ne parle pas du gaz, mais sortir du nucléaire aussi. Question, en quoi le nucléaire est-il coupable vis-à-vis de la dégradation du climat ?
Oula, vaste question. Il faudrait plusieurs émissions, Jean-François
Julliard. Oui, mais je vais essayer d'y répondre rapidement. Alors déjà, la priorité est de sortir des énergies fossiles. Donc ça concerne le charbon, mais ça concerne aussi le pétrole, ça concerne aussi le gaz, bien entendu. La question du nucléaire, pour nous en France, est un point clé, parce que le nucléaire en France, il faut savoir que la France est le pays le plus nucléarisé au monde en termes de part de sa production d'électricité. Aucun autre pays n'est comparable à la France en termes d'utilisation du nucléaire. Et le nucléaire est en soi porteur d'un certain nombre de dangers et de problèmes environnementaux. Il y a la question des déchets dont on ne sait pas quoi faire. Il vient d'avoir un débat public sur la question des déchets et on se retrouve avec une accumulation de déchets dont, qu'on ne sait toujours pas traiter. Les centrales sont vieillissantes et de plus en plus dangereuses. Le nucléaire coûte de plus en plus cher alors que les énergies renouvelables coûtent
mais
de moins en moins cher.
Mais il ne produit pas
d'effet de serre. Il ne produit pas d'effet de serre, mais il est porteur d'autres risques environnementaux. Donc pour nous, le nucléaire n'est pas une solution à la lutte contre le dérèglement climatique. Et puis même si on pensait que c'était une solution, de toute façon, aujourd'hui, en dehors de la France, aucun pays ne mise sur le nucléaire pour lutter contre le dérèglement climatique, parce que déployer aujourd'hui des centrales nucléaires pour avoir un effet positif sur le climat, ça voudrait dire qu'il faudrait construire des centrales nucléaires quasiment toutes les semaines, un peu partout sur la planète. Ça coûte extrêmement cher, c'est très très long à déployer quand on voit le retard accumulé par le chantier de l'EPR par exemple en France. Donc le nucléaire n'est pas une solution, et n'est pas considéré d'ailleurs comme une solution par l'immense majorité des États de cette planète. Aujourd'hui, les États de cette planète, ils se tournent vers les économies énergie et vers les énergies renouvelables, pas sur la construction de nouvelles centrales nucléaires.
En fait, ce serait ouvrir un potentiel autre problème.
Bah, ce serait régler un problème en créant un autre
un
qui est
autre.
Potentiellement tout aussi grave. Donc non, ce n'est pas une solution.
Par mail, Julien nous dit « La COP25 a montré une fois encore les limites de la coopération internationale face aux égoïsmes des États. Faut-il arrêter tout simplement d'organiser ces conférences qui génèrent beaucoup de CO2 et ne servent pas ? Non, pas... J'ai fait une petite liaison et ne servent pas à grand-chose. Marie Toussaint au téléphone.
Alors, les COP sont organisées depuis 1972, en fait, une conférence internationale, et puis, sous leur forme actuelle, depuis un petit peu moins longtemps, elles ont permis, et elles permettent encore, aux pays, notamment du Sud, d'avoir un espace où ils peuvent porter leur voix. Et notamment, ce qui s'est passé pendant cette COP à Madrid, qui est effectivement une catastrophe à la fois pour le climat et pour la diplomatie internationale, c'est que les pays, et notamment les républiques des îles, ont pu dénoncer le crime que constituait l'inaction climatique par les pays les plus riches, et donc cette injustice dont on parlait tout à l'heure, mais aussi souligner le fait qu'on était là en face d'un crime, de quelque chose qui devrait être criminel, des crimes climatiques, des crimes environnementaux.
On parle d'écocide.
Et dans le même temps, les républiques des Maldives et des Vanuatu ont demandé auprès de la Cour pénale internationale à ce qu'on reconnaisse le crime d'écocide, les graves crimes contre la sûreté de la planète. Et donc c'est vers ça qu'on doit aller aujourd'hui. On doit pénaliser et condamner celles et ceux qui détruisent notre planète. Et on doit aussi changer complètement de philosophie juridique, mais aussi de philosophie civilisationnelle. Donc aujourd'hui, on doit considérer les écosystèmes comme ayant de la valeur, comme ayant une dignité propre. On doit reconnaître les droits de la nature. En fait, les COP, elles ne servent à rien si on n'arrive pas, un, à garantir le fait que les États respectent leurs engagements, et deux, si elles ne nous permettent pas de changer notre manière de voir les choses, de changer notre relation entre les activités humaines et la nature.
Il y a eu, je le disais tout à l'heure, 2,3 millions de signataires de votre pétition, l'affaire du siècle. Il y a plusieurs questions autour de ce chiffre, puisque vous l'avez hébergé chez vous, cette pétition, et qu'on ne peut pas vérifier. Est-ce que c'est un coup de com' ou pas, ces 2,3 millions ?
Non, c'est pas un coup de com'. C'est-à-dire que nous, on a fait tout un travail très sérieux d'analyse de cette base d'email. On a éliminé des fausses adresses email, parce qu'il y a toujours des erreurs, il y a toujours des fausses adresses. Donc on a fait ce travail de vérification, donc ce chiffre il est réel, il est contrôlé en permanence, donc il n'y a pas de souci avec ce chiffre-là.
Et en ce moment, sur le site de l'affaire du siècle.net, vous pouvez aller témoigner, hashtag témoin du climat, plus de 11 500 témoignages déjà recueillis en une semaine, c'est énorme. Vous pouvez nous en dire un tout petit mot très rapidement ?
Oui, très rapidement, c'est vrai qu'on a proposé pour ce premier anniversaire de l'affaire du siècle aux Françaises et aux Français de témoigner des conséquences qui sont déjà là du changement climatique, parce que souvent on a l'impression que le changement climatique, ce sont des typhons aux Philippines, mais pas forcément quelque chose qui nous concerne en France. Et si, la France fait partie des pays qui sont même fortement concernés par le changement climatique.
62% des Français,
62% des Français sont fortement touchés d'après le ministère de la Transition écologique. Et c'est vrai qu'on a vu déjà une diversité de témoignages arriver, d'agriculteurs qui ont des pertes de récolte, de personnes qui sont inquiètes pour leur hébergement, leur maison, qui souffrent d'assèchement de terrain. Enfin, il y a beaucoup de conséquences qu'on n'imagine pas forcément autour de nous. perte de faune et de flore, disparition des insectes, des oiseaux, etc. Donc il y a une variété, une diversité de ces témoignages, à la fois dans leur géographie, parce que ces conséquences du changement climatique, elles concernent toute la France, c'est pas seulement une région ou deux, et puis dans la diversité des témoignages, dans la diversité des impacts.
L'affaire du siècle.net pour avoir toutes ces infos-là. Merci à tous les deux, Jean-François Julliard et Marie Toussaint. Bonne fête de fin d'année à tous les deux. Juste après les infos, le feuilleton de la semaine, reportage au sein d'une famille zéro déchet, avec aujourd'hui la mise en place, pas simple, de ce style de vie.
France Inter, la Terre au carré.
Deuxième demi-heure en votre compagnie, et dans quelques minutes, vos solutions pour la planète avec Claire Moucaud, cueilleuse professionnelle de plantes sauvages. Notre invitée découverte en fin d'émission, Catherine Vadon, pour s'enfoncer en apnée dans les tréfonds marins, là où l'homme s'est encore si peu aventuré. Mais avant, rediffusion toute cette semaine d'une série de reportages de Julie Pietri sur le quotidien d'une famille zéro déchet. Un couple, Céline et Grégory, la quarantaine, plutôt aisée, parents de 3 enfants. Comment tout a commencé? Premier épisode aujourd'hui, avec les débuts parfois chaotiques.
C'est une famille d'ici les Moulineaux, près de Paris, qui a accepté de nous recevoir. Un couple, Céline et Grégory, la quarantaine, plutôt aisée, parents de 3 enfants et des poubelles, donc en voie de disparition. Le déclic est assez récent. Un soir de 2015, en pleine COP21 à Paris, Céline, la maman, assiste à une conférence de cette femme-là, Bea Johnson, sorte de papesse du zéro déchet, qui parle donc là de sa propre expérience.
On s'est rendu compte que pour que le zéro déchet soit vraiment visible chez nous à long terme, il suffisait tout simplement de suivre 5 règles dans l'ordre. De refuser, de réduire, de réutiliser, de recycler et enfin de composter pour qu'à la fin de l'année, on ne se retrouve donc qu'avec un bocal de déchets. Merci, merci.
Donc vous ne le voyez pas là, mais il est vraiment, vraiment petit ce bocal. L'idée, c'est de ne plus acheter de produits emballés, de refuser les sacs plastiques, d'emmener des tupperwares chez son commerçant, etc. Alors Bea Johnson dit tout simplement, on va voir ce qu'il en est. Céline et Grégory reviennent d'abord sur cette soirée et sur leur premier pas.
Hop, allez-vous dans le salon. Julia, tu montes aussi, comme ça on est tranquille. La table est débarrassée.
Bah pratiquement, mais vas-y.
Vous vous souvenez dans quel état vous êtes rentrée chez vous De quoi vous avez parlé à votre mari ce soir-là?
Ben oui, j'étais hyper enthousiaste. Donc on a envie de tout changer. Bon, l'enthousiasme a été moins partagé.
Moi, je savais même pas qui c'était Bea Johnson. Je me suis dit encore, elle a été un truc du luberlu, bobo écolo.
Donc ça crée des tensions et entre nous, au début notamment, quand il partait faire les courses chez le boucher, par exemple, chez le fromager, et que je voyais qu'il préparait juste un cabas et pas de boîte en plastique.
Donc des boîtes pour que les commerçants mettent le fromage directement dans votre boîte et pas de sachet en plastique.
Au début, c'est vrai que je le faisais pas. Céline allant très vite sur les sujets, voulant imposer un peu une sorte de diktat à la maison sur ce sujet. Moi, je dis non, on va y aller tranquillement, donc me force pas. Elle m'a un peu forcé à utiliser les boîtes. Donc quand vous faites des choses forcées, je me souviens d'une anecdote, c'était chez le fromager.
Je suis parti fâché avec les boîtes,
j'étais chez le fromager, j'ai mis chaque fromage dans une boîte, puis j'avais acheté de la mozzarella qui m'a mis dans une boîte, et puis du coup la boîte s'est ouverte, et du coup je me suis retrouvé avec, ou de la crème fraîche, ouais, du coup je me suis retrouvé avec un sac rempli de boîtes et de la crème fraîche partout. Donc là je l'ai haï profondément.
Je me suis fait incendier en revenant. Et là, après, on a quand même eu à un moment donné l'occasion d'en discuter. Je pense que c'est important. Moi, j'ai dit que j'aimerais bien que ce soit un projet commun et que ce soit des valeurs communes qu'on transmette à nos enfants et que c'est pas juste une lubie de ma part. C'est une vraie démarche et qui complique pas la vie en plus.
Bonjour.
Claude, vous êtes donc le père de Céline.
Oui. Bon, voilà. Une fois, il m'est arrivé d'aller au marché dans un magasin bio. Ils m'énervent, ces gens-là. Les gens ont l'air inspirés, ça m'énerve un peu. Mais elle le sait. Tout le monde ne participe pas à ça, voilà. Et Céline me dit, mais toi tu t'en moques. Je dis, elle a raison, mais oui. Bah, parce qu'il me reste 10 ans à vivre.
Vous avez quel âge, Claude?
73 ans. Je connaîtrai pas les catastrophes annoncées. Bon.
Qu'est-ce que vous lui dites à votre fille?
Ah ben, de continuer. Moi-même, depuis plus de 10 ans, j'ai un lombricomposteur dans la cave. Mais Nous avons un petit point d'opposition. Je suis contre, absolument contre la théorie du colibri, dont vous avez certainement entendu parler de, comment il s'appelle, Pierre Rabhi, c'est ça? Devant un incendie de forêt, tous les animaux fuient, évidemment, mais le colibri, qui est un tout petit oiseau, ne fuit pas, va chercher un peu d'eau dans la rivière pas loin, et va éteindre ce qu'il peut avec l'eau qu'il a récupérée. C'est ça la théorie du colibri, il fait ce qu'il peut. Cette théorie du colibri, je la trouve débile. Vous voyez l'Amazonie, le colibri, il est, avant de revenir, il a déjà cramé, il est déjà mort. Je suis quand même un peu pessimiste quant à le, comment dire, à l'efficacité de tout ça.
Est-ce que ça vaut le coup, alors?
Écoutez, je n'en sais rien. Vous savez, qui est-ce qui a dit ça? Je ne sais plus. Je fais ce qu'il faut faire. Point. C'est déjà pas mal.
Voilà. Merci. Bon courage. Au revoir.
C'est déjà pas mal, c'est sûr. C'était pas forcément gagné, hein, mais ils ont continué, Grégory et Céline, et ça fait bientôt 4 ans que ça dure. Demain, même heure, épisode 2.
France Inter. La Terre au carré. Vos solutions pour la planète.
Vos solutions pour la planète. Avec nous, par téléphone, Claire Moucaud. Bonjour Claire.
Bonjour.
Vous habitez en Lozère et vous êtes cueilleuse professionnelle depuis 40 ans, membre de l'AFC, l'Association française des cueilleurs professionnels de plantes sauvages. Alors emmenez-nous avec vous dans les forêts, dans les prés, dans les montagnes. Vous êtes les cueilleurs, est-ce que vous êtes les druides de notre époque aujourd'hui?
Ouais, c'est un bien grand mot, hein. Quand on a commencé, en fait, on était des jeunes filles, en fait, on était des filles, et on avait envie de vivre dans la nature, voilà, c'était pas du tout notre métier, mais ça nous emballait. Donc, moi, j'ai eu la chance d'avoir une copine dont les parents faisaient de la cueillette traditionnelle sur le Mont Lozère.
Ouais.
Et ils m'ont embarqué avec eux, et on est parti avec nos peignes à cueillette, des journées entières à ramasser le pied de chat.
Le pied de chat?
Voilà, c'est une toute petite plante qui était achetée à l'époque par les pharmacies. Voilà. Et ils en faisaient un sirop pour la toux.
Et à quoi ressemble votre quotidien aujourd'hui? Parce que c'est vrai que ça fait un peu rêver.
Oui, bien sûr. Maintenant, ben, on a monté des entreprises, on a participé à des laboratoires. En 40 ans, il s'est passé beaucoup de choses. Déjà, là, à l'époque, quand on ramassait des plantes, on avait du mal à les vendre. Alors que maintenant, c'est la mode partout.
Bon, bah déjà, c'est une bonne nouvelle pour vous.
Oui, ça c'est sûr. Moi, je suis en fin de carrière et c'est vrai que maintenant, ceux qui se mettent dans la plante n'ont plus du tout de problème pour en vendre.
Parce que vous les vendez à qui, vos plantes?
Eh ben, écoutez, on peut ramasser des plantes pour faire des tisanes. Donc maintenant, il y a plein de gens qui revendent des tisanes, qui les ramassent et qui les vendent en direct. Des gens qui font de la distillation. Et il y a aussi des gens qui ramassent, donc qui sont des cueilleurs professionnels pour des laboratoires ou pour des industries.
Des laboratoires, par exemple, des laboratoires qui font de la médecine homéopathique?
Il y a l'homéopathie, il y a tous les gens qui font de la gémothérapie, qui font des alcoolatures, même les gens qui font des gélules, enfin tous les produits à base de plantes.
La gémothérapie, c'est la médecine des bourgeons, hein, pour que...
Oui, c'est ça, c'est une médecine très, très, très en vogue en ce moment. Donc voilà, on ramasse de plus en plus de bourgeons en France.
Donc ça veut dire qu'on vous commande certaines plantes ou c'est vous qui, en fonction des plantes que vous cueillez, les proposez à tel ou tel client?
Ben, y a vraiment deux solutions. Il y a le petit cueilleur qui va, enfin, ou même moyen cueilleur ou même gros cueilleur qui ramasse ses plantes et qui les vend directement sur les marchés. Voilà. Et puis il y a les cueilleurs qui travaillent pour d'autres.
Ouais.
Et la démarche est assez différente parce que le petit cueilleur, lui, il va ramasser autour de chez lui, il va faire ses tisanes, il va organiser sa vie autour de son territoire. Alors que les laboratoires, ils peuvent commander jusqu'à 250 ou 300 plantes différentes qu'il faut aller chercher un peu partout. Voilà, donc la situation n'est pas exactement la même.
Ça veut dire qu'une bonne journée de collecte, ça peut être, selon les gens, quelques kilos comme beaucoup plus?
Oui. Ça, bien sûr, mais sinon, c'est pas tellement une question de quantité, en fait, parce que le petit cueilleur, il peut ramasser ses 50 ou 100 kilos dans la journée aussi, hein.
Ouais.
Mais c'est une organisation différente sur le territoire, parce qu'en fait, la cueillette sauvage, on ramasse chez les gens. Ce qui fait quand on a un
chez
territoire
les propriétaires, quoi, de champs, voilà, de forêts, ouais.
Oui, bien sûr. Donc, quand on a son territoire de cueillette, ma foi, on va toujours dans les mêmes endroits, on connaît les propriétaires, et puis surtout, on sait la quantité qu'on doit ramasser, etc. Donc, on fait attention à notre territoire, à l'écologie.
Et quand on est des cueilleurs de plus grande quantité, si un laboratoire vous commande, je sais pas, une tonne d'arnica, ben ma foi, il faudra trouver l'arnica, il faudra le ramasser. Et on sera pas chez soi, donc voilà, c'est d'autres organisations.
Claire Moucaud, vous le disiez, il y a de plus en plus de gens qui se mettent aux plantes. Et ça veut dire que pour vous, ça veut dire qu'il y a de plus en plus de gens qui vont cueillir des plantes un peu n'importe comment. Et c'est un vrai problème.
Oui, bien sûr, parce que si vous voulez, entre l'époque où on ramassait, où chacun ramassait un peu des plantes sur son territoire, là, il y a de plus en plus de demandes. Ce qu'il faut savoir, c'est que les plantes, avant, elles venaient d'autres pays, surtout des pays de l'Est. Maintenant, toutes les industries, tout le monde veut des plantes françaises. Voilà, donc il y a de plus en plus de cueilleurs sollicités. Et il y a vraiment un risque pour la pérennité de la ressource.
Oui, pour certaines plantes. L'arnica, par exemple, je ne savais pas.
Non, l'arnica, la gentiane, c'est deux plantes qui sont surramassées en France en ce moment. Et c'est un peu pour ça qu'on a créé la FC, en fait. Hein. Donc on sentait qu'il y avait une espèce
donc,
d'alerte.
La FC, c'est ressource. L'Association française des cueilleurs professionnels, je le répète,
voilà,
de plantes sauvages.
Je vais le préciser. Voilà, on a eu l'idée de fonder cette association pour réfléchir en fait à tout ce qu'on allait de la manière dont les gens pouvaient cueillir. Et puis essayer de faire un petit peu de ménage là-dedans et surtout de partager nos expériences et nos visions de notre métier, hein. Parce que en fait les gens avant l'AFC étaient tous autoproclamés cueilleurs, enfin à part quand il y avait un peu de transmission, mais sinon moi, j'ai commencé comme ça, voilà, on a appris sur le tas.
Oui, mais même en apprenant sur le tas, ça nécessite quand même d'avoir des compétences, alors peut-être que vous les avez appris comme ça au fur et à mesure, mais des compétences scientifiques, botaniques, notamment parce que certaines plantes peuvent être dangereuses, en fait, d'abord pour le cueilleur lui-même.
Oui, on peut tout à fait confondre deux plantes. Hein. L'arnica, il a une sœur jumelle, voilà, il y a plein de plantes qui ont des sœurs jumelles.
Donc, qui s'appelle comment, la sœur jumelle de l'arnica, c'est qui?
C'est la doronique. La doronique, elles ont très très peu de différence. Franchement, on a tous fait un peu l'erreur un jour ou l'autre, et puis on s'en est vite rendu compte, heureusement.
Et ça amène quoi comme plante? Elle est dangereuse?
La doronique, bon, elle peut être dangereuse, oui, mais enfin, je vous dis, on la confond pas très longtemps. Hein. Mais enfin, il y a toujours un risque. Donc, c'est un vrai métier, voilà, effectivement, il faut connaître la botanique. Il faut connaître aussi l'écologie pour savoir si une plante, plus, on peut la ramasser plus ou moins, etc.
De toute façon, tout ça, c'est sur le site de l'AFC, qui s'appelle cueillette-du6pro.org. Vous avez des fiches techniques de cueillette, des petits livrets qui vous donnent toutes les infos pour cueillir, mais cueillir en connaissance de cause. Merci beaucoup, Claire Moucaud.
Eh ben, de rien.
Bonne tisane de fin d'année, alors.
Merci beaucoup.
Si vous aussi, vous êtes à l'origine d'une initiative pour la planète dont vous voulez nous parler, on attend toutes vos idées sur franceinter.fr, sur la page de la Terre au Carré. Dans un instant, l'invité est découverte. Prenez de très grosses bouteilles d'oxygène. On va plonger loin, très loin dans l'océan, là où il fait nuit noire.
Mon amour, je dois courir, mais je ne sais qui ni quoi. Je cours après.
Odyssée. Odyssée.
Je sais qu'il y a des choses à fuir, il y a 100 000 regards à éviter.
Odyssée. Odyssée.
Je reviendrai conquérir lorsqu'ici tout sera droit et redressé.
Odyssée. Odyssée.
Je pars à demi-sourire, mais crois-moi, je ne fais vraiment pas exprès.
Promets-moi de ne rien effacer. Odyssée.
La voix de Kerenan sur France Inter, Odessa, Odyssée, extrait de l'album Bleu. Et comme la vie est bien faite, allons nous enfoncer justement dans le grand bleu.
La Terre au carré. Élodie Font.
Nous allons sur la Lune, nous les humains, à plus de 350 000 km d'ici. Mais les fonds marins, eux, qui sont pourtant beaucoup plus proches géographiquement, nous semblent encore bien mystérieux. Les abysses des océans la fascinent, ça tombe bien nous aussi. Bonjour Catherine Vadon.
Bonjour.
En duplex de Nantes, un petit peu plus près de la mer que nous, vous publiez un très beau livre, Océan Sauvage, riche en illustrations de l'agence Bios Photo, avec de nombreuses histoires très surprenantes sur les animaux qui peuplent les tréfonds marins. Vous êtes par ailleurs docteur en océanographie, maître de conférences au Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris, et vous avez déjà publié de nombreux livres. Et puis pour être complète, vous êtes vous-même une grande amatrice de plongée sous-marine. Pourquoi, Catherine Vadon, on connaît si peu de choses, finalement, des fonds marins qui abritent une biodiversité incroyable.
Alors, il est vrai que plus on descend en profondeur, et moins on connaît. Moins on connaît la diversité. Bon, il y a des milieux littoraux qu'on commence à bien connaître. Je pense en particulier aux récifs coralliens. On décrit quand même assez largement la biodiversité, même si on continue de découvrir de nouvelles espèces. Mais il est vrai que plus on descend en profondeur, et plus la connaissance en fait diminue également, malgré de nombreuses prospections qui ont lieu en environnement profond. Il faut savoir que le fond de l'océan, il se trouve à 11 000 mètres de profondeur. Mmh. 11 000 mètres sur la Terre, c'est vraiment pas grand-chose. C'est une marche à pied, une petite marche à pied ou une petite course à vélo. Et pourtant, pour descendre à 11 km sous la surface, eh bien ça, c'est extrêmement difficile. Ça demande une technologie très avancée et coûteuse.
Et vous commencez d'ailleurs votre livre avec le récit d'une expédition en 2012, celle du réalisateur James Cameron, le père du film Titanic, on peut l'entendre d'ailleurs.
Ok, je m'approche. Down. Doucement, doucement. Surface. Ici Deep Sea Challenger. Je suis au fond. Profondeur 10 898 mètres. Et atmosphère nickel.
James Cameron aborde un mini sous-marin pour aller filmer en 3D le site le plus profond connu de la croûte terrestre, vous en parliez, la fosse des Mariannes dans l'océan Pacifique. Qu'est-ce qu'on a découvert à la suite d'une expédition comme celle-ci ?
Alors on découvre déjà que la vie, enfin on le savait, mais là ça renforce nos connaissances. Effectivement, la vie existe. Il existe des crustacés, il existe des concombres de mer à ces grandes profondeurs. Par contre, des groupes disparaissent. Plus la profondeur augmente et plus certains groupes disparaissent. Par exemple, des poissons, mais on ne les trouve pas au-delà de 8 400 mètres de profondeur à peu
près. Après, il n'y en a plus.
Et après, il n'y en a plus ou On n'a pas su les trouver, mais on se demande pourquoi il serait absent plus bas. Est-ce que les grandes pressions qui s'exercent peuvent endommager leur membrane cellulaire, leur ADN? Bon, il y a des équipes qui travaillent activement sur ce sujet.
Parce que ce sont des conditions vraiment extrêmes. Alors pour l'homme, certes, de descendre aussi bas, mais même pour les espèces animales qui peuplent la mer.
Voilà, on a des conditions extrêmes, enfin extrêmes pour les conditions que nous
connaissons, en tout cas,
avons besoin, bien sûr. Donc on a des pressions gigantesques, on a évidemment une nuit éternelle, on a une température très basse, sur la plaine abyssale on n'est pas plus de 1-2 degrés Celsius, la nourriture se fait rare, l'oxygène se fait rare également, donc il faut pouvoir s'adapter à toutes ces contraintes pour pouvoir vivre et se reproduire.
Alors la nuit arrive assez vite finalement en termes de mètres.
Alors
en dessous du niveau de la mer, je veux dire, quand on descend, voilà, finalement on assez vite, il fait donc nuit.
Oui, jusqu'à 200 mètres à peu près de profondeur, la lumière est encore bien présente. Et en dessous, entre 200 et 1000 mètres, vraiment maximum, on est dans la zone dite crépusculaire, où là, simplement, on a une très mince lumière qui filtre de la surface. Et là, on a toute une faune très particulière, et en particulier des animaux bioluminescents, donc qui créent leur propre lumière.
Alors ça, j'ai trouvé ça fascinant. Ça, vous le dites dans votre livre Océan Sauvage, j'ai trouvé ça fascinant. Vous dites que les poissons, quels qu'ils soient, ont trouvé le moyen de s'éclairer eux-mêmes.
Voilà, et donc ils ont en fait des petits organes lumineux sur tout leur corps. Et il y a une chose extraordinaire, c'est que dans cette zone crépusculaire, beaucoup d'animaux en fait éclairent leur face ventrale pour pouvoir échapper aux prédateurs. Pourquoi ? Parce que grâce à leurs petits photophores sur la face ventrale, ils vont équilibrer très exactement leur lumière avec celle la lumière solaire qui filtre depuis la surface. Et pour le prédateur qui se trouve au-dessous d'eux, eh bien le prédateur va pas faire la différence entre la silhouette en fait de la crevette ou du poisson et la lumière qui filtre de la surface.
Ce qui est fascinant, voilà, de toute façon, ce sont tous ces poissons qui vont s'adapter finalement à leur environnement. Vous parliez par exemple dans le livre de l'Antarctique des petits poissons qui fabriquent de l'antigel pour éviter que des cristaux de glace se forment dans leur sang. Vous parlez aussi du cachalot. Vous pouvez nous dire un petit mot du cachalot, parce que je trouve que ce qu'il fait est assez extraordinaire.
Alors, le cachalot, c'est une grosse bête, 20 mètres, 57 tonnes. Il arrive à descendre à 2000, 3000 mètres de profondeur avec des temps d'apnée de 2 heures. Et en fait, il a sa cage thoracique qui est flexible et qui arrive à s'écraser sous l'augmentation de pression. Et ce qui lui permet à ses poumons de se vider presque entièrement de leur air. Et sa tête contient une énorme masse de graisseuse qu'on appelle le spermacétie. Et quand le cachalot plonge, eh bien, elle se densifie avec les eaux froides et elle agit comme un ballast. Et ce qui permet d'entraîner le cachalot sans effort musculaire en grande profondeur.
J'aime beaucoup cette histoire. Contrairement à une idée reçue, c'est l'océan qui nous fournit plus de la moitié de nos ressources en oxygène. Donc ce sont eux, finalement, tous ces océans, les vrais poumons de la Terre.
Ben voilà, et en particulier le phytoplancton, le plancton végétal, donc qui est la base de la chaîne alimentaire de la plupart des écosystèmes océaniques. Eh bien, pour sa photosynthèse, le phytoplancton fournit 60% de l'oxygène nécessaire à la vie sur la planète. On pense en particulier aux diatomées ou aux coccolithophoridae. ils sont en plus fixateurs
de
CO2. Oui, donc ce phytoplancton a un rôle extrêmement important dans le stabilisateur climatique.
Merci beaucoup Catherine Vadon. Votre livre Océan Sauvage aux éditions Glénat, avec vraiment de magnifiques illustrations de biosphotos.
Merci.
Ça donnait vraiment envie de plonger avec vous, vous qui êtes adepte, je le disais, de plonger. Vous étiez en duplex de France Bleu Loire Océan, ça tombe bien. Merci à Miguel Linares pour la liaison. Merci aussi à Denis Delbecq à la rédaction en chef de l'émission, Clara Marliot, Chantal Le Montagnier, Sophie Vaux pour la préparation des dossiers, Anna Massardier pour les réseaux sociaux, la programmation musicale Thierry Dupin. Vous pouvez réécouter cette émission La Terre au Carré sur franceinter.fr. Je vous retrouve demain à 13h30.